Bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans un sujet passionnant, la vie littéraire à Paris. C'est une histoire riche, foisonnante. Paris, quoi. Hein. On pense tout de suite aux écrivains, aux cafés.
Oui, une image très forte. Et la question, c'est comment Paris est devenu ce centre névralgique, non seulement pour la France, mais à l'échelle mondiale aussi.
C'est ça. Notre idée, c'est de retracer un peu cette histoire, cette évolution. Comment ce prestige culturel s'est construit depuis les tout débuts, au Moyen-Âge, jusqu'à l'après-guerre. On a pas mal d'infos qui couvrent plusieurs siècles.
Un sacré voyage dans le temps.
Exactement. Ok, alors, on décortique ensemble cette histoire. On commence par le commencement.
Allons-y.
Les origines sont anciennes, en fait. Bien avant les cafés célèbres, dès les 12e, 13e siècles, il y a déjà l'Université de Paris qui émerge comme un pôle intellectuel vraiment important.
Tout à fait. C'était même le seul grand centre au nord de la France pendant un temps.
Et un autre point, la cour royale qui finit par adopter le dialecte parisien. Ça ancre déjà un peu la ville dans ce rôle culturel, non ?
Oui, ça pose les bases. Et puis, au XVIe siècle, arrive l'humanisme. Et Paris devient un terreau très fertile pour ces nouvelles idées.
Et cette base, elle permet ensuite une sorte de consolidation.
Exactement. Au XVIe et surtout XVIIe siècle, la centralisation politique et culturelle vont de pair. Paris s'affirme de plus en plus. Et là, il y a un moment clé, fondateur même.
L'Académie française.
Voilà. Fondée par Richelieu en 1635, avec cette mission de normaliser la langue, de la perfectionner. C'est assez fascinant de voir comment, dès le milieu du XVIIe, Paris et ses salons deviennent le centre quasi unique de la littérature française.
Une concentration assez incroyable.
Oui, pour la création, la reconnaissance, tout passe par Paris.
Et ce XVIIe siècle, c'est aussi le grand siècle, Louis XIV. Une période faste pour les écrivains, on imagine.
Ah oui, clairement. Le roi protège, il soutient les artistes, les auteurs. C'est une période où être écrivain à la cour, c'est quelque chose.
Mais est-ce que Versailles n'éclipse pas un peu Paris à ce moment-là ?
Un peu, oui. L'éclat de la cour attire beaucoup. Mais attention, la vie intellectuelle parisienne ne disparaît pas, loin de là. La Comédie française, par exemple, elle est fondée en 1680 à Paris.
D'accord.
Et au XVIIIe siècle, Paris reprend très nettement le dessus comme centre culturel.
C'est l'âge d'or des salons, alors.
Exactement. Sous Louis XV, Louis XVI, qui sont moins mécènes directs que Louis XIV, ces salons privés deviennent absolument centraux. C'est là que tout se passe, que les idées circulent.
On a des exemples de ces salons, hein.
Bien sûr, on pense au salon de Madame de Lambert, où on pouvait croiser Montesquieu, Marivaux.
Ou celui de Madame de Tincin, fréquenté par Fontenelle, l'abbé Prévost. C'est vraiment le cœur battant de l'époque.
Et c'est l'époque de Voltaire aussi, non ? L'écrivain parisien par excellence, on dit parfois.
Tout à fait. Voltaire incarne bien cet esprit parisien. Mais à l'inverse, on a aussi Rousseau, qui lui fuit la ville. Il parle du bruit, de la fumée, de la boue.
Une vision moins glamour.
Carrément.
Dire petite note un peu décalée dans le temps, mais intéressante. On mentionne Le ventre de Paris de Zola, peut-être, pour illustrer cette densité, cette vie grouillante de la capitale, même si c'est plus tard.
Et si on prend un peu de recul, ces salons, ils ont joué quel rôle pour les Lumières ?
Un rôle fondamental. C'était les lieux parfaits pour la sociabilité intellectuelle, pour débattre, pour diffuser les idées nouvelles, cet esprit critique qui caractérise les Lumières.
D'accord. Puis arrive le 19e siècle, grosse rupture avec la Révolution, j'imagine.
Énorme rupture. Ça transforme la société, et donc la littérature aussi. Elle s'ouvre à un public plus large, elle aborde des thèmes plus sociaux, politiques.
C'est l'essor du roman, peut-être ?
Oui, notamment. Le roman qui va peindre cette société en pleine mutation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant aussi, c'est quand on arrive au XXe siècle.
Avec les quartiers mythiques.
Exactement. Des quartiers entiers qui deviennent associés à des écrivains, à des mouvements. Montparnasse, par exemple.
Avec Max Jacques, Léon-Paul Fargue.
Oui.
Et les cafés, la Closerie des Lilas.
Voilà. Mais aussi le Palais Royal, avec Cocteau, Colette. Le passage Choiseul, où Céline a passé son enfance. Montmartre, avec Marcel Ayémé. Chaque quartier a son ambiance, ses figures.
Et il y a aussi l'arrivée des étrangers dans les années 20, c'est ça ? Hemingway, Miller...
Oui, toute une vague. Anaïs Nin, D.H. Lawrence, James Joyce. Ils viennent chercher quoi à Paris ? Probablement cette atmosphère de liberté artistique. Cette effervescence qu'ils ne trouvaient pas forcément chez eux.
Une sorte de mythe, déjà.
Complètement. Et après la Seconde Guerre mondiale, le flambeau passe encore à un autre quartier.
Saint-Germain-des-Prés.
Exactement. ça devient le centre de la vie littéraire philosophique. Sartre, Beauvoir, Boris Vian, Prévert, les deux Magons, le Flore.
Des noms qui résonnent encore aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, si on essaye de résumer cette géographie qui bouge tout le temps, on part du Quartier Latin historique, lié à l'université.
Qui reste important pour l'édition, d'ailleurs.
Oui, toujours. Puis, les salons du Marais au 18e. Ensuite, Montparnasse, fin 19e, début 20e. Et enfin, Saint-Germain, après 45.
Et aujourd'hui, on voit les traces partout dans Paris, avec les plaques sur les immeubles.
Presque à chaque coin de rue, ou presque. Ça montre bien l'empreinte laissée.
Alors, si on essaye de synthétiser, qu'est-ce que tout ça nous dit ?
Ça montre que Paris a toujours eu ce rôle central, c'est une constante. Mais les lieux précis, les formes de cette vie littéraire, ça n'a cessé de changer, de se déplacer.
Du salon chic au café existentialiste.
C'est ça. La carte littéraire de Paris est en perpétuel mouvement et elle marque profondément la ville elle-même.
Une histoire fascinante, vraiment.
Et ça soulève une question importante, je trouve. Face à ce passé si riche, si présent encore sur les murs, comment se situe le Paris d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il joue toujours ce rôle de moteur pour la création ?
Bonne question.
Quelle est la vitalité réelle des lieux littéraires parisiens maintenant, si on les compare à l'effervescence qu'on vient d'évoquer ? Est-ce que c'est comparable ? Est-ce que ça a pris d'autres formes ? Voilà, matière à réflexion, je pense.